Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
On sait maintenant que ce sont 247 voyageurs qui ont apporté la COVID-19 au Québec. Quelle est la responsabilité des compagnies aériennes dans cette propagation du virus? On se pose la question avec notre collaborateur André Noël, journaliste. Bonjour André.
Bonjour.
Bon, on se parle de cette enquête de l'INSPQ qui montre que ce sont littéralement 247 personnes qui seraient à l'origine de la situation que l'on connaît actuellement au Québec.
Exactement. Elles ont finalement infecté, elles ont lancé l'épidémie qui a finalement engendré plus de 66 000 cas de COVID-19. La grande majorité de ces 247 voyageurs venaient ici par avion.
Donc, le rôle des avions dans la propagation de la COVID, c'est pas juste ici qu'on s'y intéresse, là, ça fait l'objet de recherches au plan international.
Oui, effectivement, de plus en plus, parce qu'en fait, les avions ont joué un rôle vraiment majeur dans la transformation de l'épidémie en pandémie, là. Alors, en juillet, cet été, il y a une étude qui a montré que les voyages par avion, donc, sont les principaux responsables de l'extrême rapidité avec laquelle le coronavirus s'est répandu sur toute la planète. Geneviève, on sait que les voyages ont toujours été à l'origine de toutes les grandes épidémies depuis des siècles. Même quand, par exemple, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, c'était l'épidémie chez les peuples autochtones qui a suivi pendant plusieurs siècles.
Oui.
Et la grippe espagnole, par exemple, en 1918-1919, elle a été transmise par les soldats américains au départ qui allaient se battre dans les tranchées en Europe et puis qui ont rapporté ensuite le virus ici, puis ça s'est beaucoup répandu. Maintenant, les chercheurs se penchent sur le lien entre les avions et l'épidémie de coronavirus actuelle. Et l'article dont je vous parle, qui est paru en juillet, montre un lien direct entre le nombre d'aéroports dans un pays puis la sévérité de l'épidémie.
Mais imagine, André, tu me parlais des épidémies qui ont été rapportées par les grands explorateurs jusqu'ici en Amérique du Nord. Ça prenait des mois, mais là, les avions, là, je veux dire, ça peut se répandre à vitesse grand V, là.
Exactement, c'est ça qui est particulier. Et puis, d'ailleurs, il y a une autre étude qui est parue carrément concernant l'épidémie de COVID-19 qu'on connaît maintenant. Et dès le mois de février, donc, il disait, puis c'est la première phrase, il dit « Les réseaux globaux du trafic aérien jouent un rôle clé dans l'importation globale de maladies infectieuses émergentes. » C'est important de se souvenir de certaines dates. En automne 2019, c'est là que le coronavirus fait son apparition à Wuhan, en Chine. Le 13 janvier, c'est le premier cas hors de Chine. C'est un voyageur qui arrivait par avion en Thaïlande. Le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé note que l'épidémie a commencé à se répandre dans le monde entier. Puis l'OMS déclare à ce moment-là l'état d'urgence de santé publique de portée internationale. Ce qui est intéressant, c'est que 4 jours plus tard, ici même à Montréal, l'Organisation civile de l'aviation civile internationale a adopté une résolution qui demandait au gouvernement de ne pas restreindre le trafic aérien. L'OACI, c'est une agence des Nations Unies qui est basée à Montréal, mais son mandat central, c'est de stimuler le développement de l'aviation civile. Et concrètement, elle agit beaucoup plus comme un lobby pour l'industrie aérienne que comme une agence des Nations Unies vouée à un intérêt public. Alors là, ce qui s'est produit, c'est que la plupart des gouvernements dans le monde ont plié devant ce lobby-là, puis ont accepté de ne pas restreindre les vols. Les vols en provenance de Chine ont continué, même si l'OMS savait que c'était là que se trouvait l'épicentre de l'épidémie. Puis le 12 mars, le Journal de Montréal notait que les avions d'Air China continuaient de se poser à Montréal-Trudeau. C'est intéressant, pour terminer sur ce point-là, Geneviève, de souligner que la frontière terrestre avec les États-Unis est fermée, mais pas la frontière aérienne.
Oui, avions continuaient de rentrer, je m'en rappelle très bien. Là, on soulignait à gros traits que ça faisait aucun sens. Même la mairesse Plante s'en est mêlée, là.
Effectivement. Puis on a vu que finalement, c'est la direction de la santé publique de Montréal qui a pris l'initiative d'aller à l'aéroport Montréal-Trudeau pour informer les voyageurs et leur demander de s'isoler. Mais ça n'a pas été pris très au sérieux.
Ben non, puis on voyait les passagers rentrer et pendant ce moment où les journalistes avaient encore accès à l'aéroport, questionnaient ces gens-là, puis disaient, dans la plupart des cas, qu'ils n'avaient pas du tout été inquiétés, qu'à la douane, ils avaient passé, si on veut, comme une lettre à la poste, qu'on leur avait pas vraiment dit de s'isoler pendant 14 jours. Donc, je me rappelle, là, il y a eu quand même un laps assez long entre le moment où on a sévi et où les gens continuent à rentrer au pays. Mais là, ces liens entre l'industrie aérienne, André, et les épidémies est connu depuis longtemps, et l'industrie aérienne elle-même se penche sur la question quand même depuis un certain nombre d'années. Là.
Effectivement. En fait, l'industrie aérienne est très au courant du rôle des avions comme étant les principaux vecteurs des épidémies dans ces temps modernes. Et puis, il faut se souvenir, l'épidémie de SRAS qu'on a maintenant, le service respiratoire aigu, la première épidémie de SRAS a commencé en 2003, et parmi les pays occidentaux, c'est au Canada qu'elle a frappé le plus fort. Ici, il y a eu, je me souviens...
À Toronto.
À Toronto, exactement. Mmh. Il y a eu, écoutez, de mémoire, plus de 200 morts, là, ou quelque chose comme ça. C'est le seul pays occidental, d'ailleurs, où il y avait eu des morts, à l'exception de la France, où il y en avait eu un seul. Et à ce moment-là, l'OMS avait recommandé tous les citoyens, si on peut dire, tous les voyageurs de ne pas aller à Toronto. Cette recommandation-là avait provoqué une levée de boucliers à Toronto. Le maire, Mel Lastman, prétendait que c'était exagéré puis que ça allait tuer l'économie de Toronto. À la suite de ça, il y a un groupe d'épidémiologistes qui a fait une enquête approfondie sur le rôle des voyages en avion dans la propagation des épidémies, puis ils ont fait cette étude-là en collaboration avec l'industrie de l'aviation, et plus précisément avec l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, qui est également basée à Montréal. Puis la conclusion était sans appel, là, puis là j'ouvre les guillemets, il disait que les épidémies se diffusent le long du réseau aérien et puis que ça change complètement les dynamiques. J'ai parlé à un des auteurs de l'étude, Alain Barra, qui est directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique en France, puis lui il me faisait valoir que le fait que les avions propagent les épidémies très rapidement, ça a un impact majeur sur les réseaux de santé publique parce que ça laisse peu de temps au gouvernement pour prendre les mesures qui s'imposent. Autrement dit, les grandes compagnies aériennes savaient que les avions allaient être les principaux vecteurs de la COVID-19, mais ont fait pression pour continuer les vols comme à l'habitude. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'industrie du tabac.
Ben oui, on vous cause du tort, puis d'un autre côté, on se plaint parce que l'industrie aérienne, en ce moment, réclame des milliards de dollars en aide publique à nos gouvernements. Là, c'est quand même... sont effrontés un peu.
C'est un peu effronté, parce que aujourd'hui, effectivement, les compagnies aériennes payent le prix de cette politique désastreuse. Et finalement, le prix de leur propre contribution, la transformation de l'épidémie chinoise en pandémie mondiale dans un temps record. Mais justement, elles veulent pas payer ce prix-là. Elles veulent que ce soit les gouvernements qui le payent à leur place.
Mais qui compensent, ouais.
Exactement. Alors, elles font des pressions sur tous les gouvernements pour recevoir des aides massives. Les États-Unis, ils ont compensé 25 milliards de dollars au mois d'avril. Au Canada, l'industrie aéronautique réclame elle aussi des aides massives. Au Québec, on aura noté que le principal lobbyiste de l'industrie aéronautique, pas des compagnies aériennes comme telles, mais l'industrie aéronautique, c'est Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, puis il accuse le gouvernement fédéral de se traîner les pieds dans ce dossier-là. On va voir si Ottawa va aussi accorder des milliards de dollars à cette industrie. Dans le discours du trône de la semaine dernière de Trudeau, entre les lignes, on peut lire qu'il promet une aide pour des compagnies aériennes pour stimuler les vols intérieurs. On va voir exactement qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Puis aujourd'hui même, il y a trois syndicats qui ont réclamé un prêt de 7 milliards de dollars au secteur du transport aérien. C'est vrai que les compagnies aériennes ont perdu 90% de leurs voyageurs canadiens internationaux.
Oui, mais ils gardent leur argent.
Ils regardent
notre argent qui fructifie, ils se financent à même. Ben, tu sais, c'est ça qui se passe, là. On va pas avoir peur des mots, là. En ce moment, ils gardent l'argent des voyageurs en otage, donnent des crédits voyage et se financent à même, justement, ces fonds-là. Et moi, je trouve ça inacceptable que d'un côté, on ait ce type de comportement-là et qu'on quémande de l'aide gouvernementale de l'autre.
Exactement. Et faut voir aussi les revenus ou les profits ou les salaires, les bénéfices des hauts dirigeants des compagnies aériennes, c'est dans les plusieurs centaines de milliers, sinon millions de dollars. Mmh. Alors c'est assez particulier, effectivement. Ça me fait penser à l'industrie du tabac, parce que c'est une industrie du tabac, on se souvient, qui donc savait effectivement ce qu'il faisait, mais qu'il connaissaient l'impact néfaste de leur action, mais ils le faisaient quand même.
Puis la force du lobby aussi. rappelle l'industrie du tabac.
Alors, c'est le lobby ici de l'industrie d'aviation est très, très fort, extrêmement fort au Québec.
Des accointances au gouvernement, les libéraux et Air Canada, en tout cas.
Exactement.
Nos bons amis.
Puis on sait, c'est une industrie qui emploie beaucoup de gens. Bombardier, par exemple, est le principal fabricant de jets privés au monde. Alors c'est effectivement c'est triste pour tous ces travailleurs, pour ces dizaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi. Reste à savoir maintenant si faudrait pas trouver à les recycler ailleurs,
oui.
Dans des industries qui seraient probablement moins délétères pour la santé publique.
André Noël, merci. On se demandait tantôt le nombre de personnes qui avaient trouvé la mort lors de l'épidémie de SRAS. Comme pas connaître une information, je suis allée faire une petite recherche. 44 personnes, en fait, sont décédées du SRAS.
Je pense que c'était quelques centaines de cas. Hein,
oui, on avait eu des centaines de cas et quand même un nombre considérable de décès. Si on regarde les mesures de santé publique, le vaccin, c'est quand même élevé, 44. André Noël, merci. On se retrouve jeudi dans deux semaines.
Merci. Au revoir.